bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus avec Léna Kadomodadi, Daniel Morin, Albert Algout, Jérémy Crédville, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités Yvan Kelberac et Benoît Poulpin.
Bravo.
Merci.
Qui venait vérifier si les dessins qu'il avait fait sur la table la dernière fois étaient encore là. Non, oui. Il y a eu des graffitis dessus.
Oui, bah, quelqu'un a fait d'affreux graffitis, puis quelqu'un l'a balancé. Il s'agirait de Madame Dombal.
Exactement.
Alors, Madame Dombal qui était un petit peu disparate. Elle a carrément pris tout le petit carton.
En toute modestie.
Voilà, c'est je vais donc rajouter quelques détails sur le dessin de Mademoiselle Dombal. Et nous verrons un petit peu qui en pense quoi. Continuez, faites comme si je n'étais pas là, ça ne sera qu'un.
Je fais la photo à la fin de l'émission, voilà.
Ouais. Parce que je vois qu'elle a fait un petit autoportrait, je pense qu'en rajoutant quelques détails, ce sera beaucoup plus ressemblant. Mademoiselle Dombal.
Le diable est dans les détails.
Non, mais ça, c'est le portrait de Tim Seat.
Voyons.
C'est vrai que le diable se guise dans les détails, vous avez totalement raison. Nouveau long métrage d'Yvan Kelberac, on est d'autant plus ravis, Yvan, de vous accueillir pour ce film que on vous accueille à peine moins d'une semaine après ce Molière que vous avez reçu pour la dégustation, pièce que nous avions aimé et nous avions reçu Isabelle Carré et Bernard Campan pour parler de cette pièce. En tout cas, félicitations pour ce Molière amplement mérité, trop la classe.
Ouais, c'était top, on a passé une soirée
ouf. Voilà, c'est ça. Je suis en promo avec lui depuis un petit bout de temps et je n'arrive pas à savoir ce qu'il a fait exactement après son Molière. Parce qu'on n'a pas le sentiment, comme au César, qu'ils vont s'éclater, boire, finir torse nu.
Je m'en suis toujours pas remis en fait.
Mais alors, comment ça se fait ?
On a fini très tard. On a fini très tard.
Ça a été festif quand même.
Ouais, super festif. Puis ça récompense vraiment une aventure assez magique qu'on vit à la Renaissance depuis janvier. Et voilà, ce Molière de la comédie, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est génial.
Voilà, une belle Renaissance. On parle du théâtre, de la Renaissance.
Absolument.
Oui, non, mais parce qu'en dehors de Paris, ils n'ont peut-être pas forcément compris cette phrase.
Bien sûr.
Qui était faite un peu d'onomatopée. Hein.
Absolument.
Yvan, il va falloir vous regrouper. Vous avez un Molière en tant qu'auteur, il va falloir vous regrouper au niveau des phrases.
J'ai essayé.
Parlons donc de Venise n'est pas en Italie, qui justement a été un roman, a été une pièce de théâtre, maintenant un film, bientôt une marque de vêtements.
musical. Il y a deux restaurants qui ont ouvert.
Médicaments. Ouais. Quand tu moustiques, vous allez voir. Des guides. Non, vous verrez. Non.
Vous êtes le papa, vous êtes Bernard, Benoît Poulvord, dans cette famille Chamodo. Le slogan, c'est ce qui est Chamodo.
Impossible, n'est pas Chamodo.
Voilà.
Et d'ailleurs, je vous dis, j'ai amené un petit truc à.
Avec
alors, évidemment, c'est très difficile parce qu'on était à la radio, donc vous ne voyez pas, mais je voulais donner à Yvan. Je garde un souvenir de tous les tournages que je fais. Toujours un truc tout à fait.
Et vous avez les cartes de visite Chamodo ?
Oui. Non. C'est pour vous montrer la folie des accessoiristes. Je ne montre ma carte que d'un millième de seconde dans le film, puisque je travaille dans une boîte qui s'appelle CQMax, qui n'existe pas, et je remplace des serrures, je mets des systèmes de sécurité.
Et d'alarme.
Et il y a un fou qui a fait une vingtaine de cartes avec écrit CQMax pour votre sécurité, Bernard Chamodo, conseiller en sécurité. Et je parie qu'il ne savait même pas qu'elle existait.
Benoît.
C'est quand même incroyable. Ça, c'est le cinéma. Vous ne la verrez jamais.
Je le savais car j'avais choisi les couleurs et le style, tu sais.
Oui,
et tu vas expliquer évidemment que ça ne se commandait que par 20, donc c'est impossible d'en faire qu'une.
C'est probable. Ça, c'est probable. Accessoiriste.
Ouais. J'en ai beaucoup, ouais.
Regardez. Non, puis on ne sait jamais parce qu'avec Benoît Poulvord, il faut être généreux.
Il convient de prévoir de les refaire souvent.
Et donc ce Bernard et avec son épouse jouée par Valérie Bonneton, vous avez un fils Émile qui est beau, qui est encore plus beau parce qu'il est blond et parce que vous lui décolorez les cheveux régulièrement pour qu'il soit encore plus blond. En fait, c'est monstrueux parce qu'il y a deux garçons dans cette famille. Il y en a un auquel vous n'avez pas changé la couleur des cheveux, l'autre qui lui devient blond. Pourquoi le premier vous n'avez pas changé la couleur des cheveux? Parce qu'il était beau comme ça. On n'a pas besoin de le changer. Alors que l'autre, il se prend ça comme claque. Il faut le teindre en blond pour qu'il soit beau. C'est un atout supplémentaire. Mais il a des rêves aussi, ce gamin. Et il tombe amoureux d'une jeune fille. Et il y a un road movie qui s'organise jusqu'à Venise. Le titre est venu comment d'ailleurs, Venise n'est pas en Italie? C'est de la chanson de Reggiani?
Oui, c'est ça. C'est la chanson de Serge Reggiani, des paroles de Claude Lemel, le grand parolier français. Ça dit qu'en fait, les choses ne sont pas forcément là où on croit qu'elles sont. Et la chanson dit aussi que Venise, c'est l'endroit où tu es heureux. Et j'aimais bien ce titre, je le trouvais intriguant. Quand j'étais en salon du livre avec le bouquin, tous les gens me disaient « si, c'est en Italie ». Et je disais « ah oui ». Et ça créait un petit peu ça brisait la glace et on commençait à se parler. Quoi.
Alors, on va parler de ce très bon film dans quelques instants. Mais d'abord, question concernant nos invités. Benoît Poelvoorde a trouvé une nouvelle idée de décoration chez lui. Laquelle ? Apparemment, c'est récent.
Ah oui.
Ouais. Il récupère des trucs de tournage de films.
Non, bah oui, ça s'avoue.
Voilà.
Oui.
Des animaux empaillés.
Des vélos, il met des vélos un peu partout.
Des animaux empaillés, non.
Il fait tomber les murs.
C'est un solide.
Ah, alors ça a un rapport avec les
il
murs.
Il a enlevé le plafond.
Non.
Il n'y a pas de
il
mur.
Il a battu les murs porteurs.
Non. Ouais. C'est dangereux, ça.
Il tente des trucs.
Il dessine sur les murs.
Exactement.
Il dessine sur les murs. Exact. Oui, c'est vrai, je dessine sur les murs.
Ça devient vos toiles.
Ouais, ça devient les toiles, ouais. C'est un peu dur pour les autres, hein. Enfin, la personne qui partage ma vie. Mais oui, c'est vrai, je dessine sur les murs.
Est-ce que vous faites du street art façon
non pas
Banksy,
du graph ou... non c'est vraiment je m'exprime quoi c'est hélas souvent quand je suis un peu comment dirais-je
down
ouais non on va dire un petit peu éméché tu vois souvent je me sens j'ai été dessinateur donc
non mais vous dessinez super bien
hein. oui moi bon, je dessine bien dans les cartons oui. À France Inter mais sinon je dessine plus dans la vie et quand j'ai bu un verre que je suis un petit peu joyeux. Alors tout à coup ça revient et je suis persuadé que je vais faire un truc époustouflant. Alors je m'enferme, je dessine dans les pièces. Et c'est le lendemain que le rendez-vous est. Parce qu'il y a non seulement ma femme qui regarde et qui dit « Qu'est-ce que t'as fait encore ? Qu'est-ce que tu as fait ?»
J'ai pris une bière.
Et alors tu dis « Ça n'est pas fini parce que tu sais qu'il y a encore l'autre pièce. » Et tu dis « Attends, hein, parce que là je n'avais pas encore trouvé les couleurs. » Et ensuite, toi-même, tu constates avec effroi, il va falloir repeindre.
Est-ce que c'est une sorte de cadavre esquisse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une suite improbable entre
Anis
les différents
Safia,
dessins ?
Je ne sais pas ce qui se passe parce que je ne retrouve pas le chemin que j'avais pris la veille. Je dis, mais alors écoute, évidemment, ça ne paraît pas clair comme ça. Mais crois-moi que hier soir, c'était clair comme tout. Alors je pars toujours du principe, je vais le terminer et tu verras.
Voilà, ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Attends de le voir fini.
Est-ce que lorsque vous étiez petit, vous faisiez ça, et j'imagine vos parents avec le côté, mais on ne colorie pas, on ne peint pas sur les murs, on ne colorie pas le papier peint à la maison. Vous faisiez ça quand vous étiez gamin ?
De toute façon, nous, on pouvait le faire. Ma mère s'en foutait, donc je pense que ça doit venir de là. Je crois que moi, je dessinais sur tout ce que je trouvais. Hein.
D'accord.
Ah oui, on s'en foutait chez nous.
Question concernant cette fois-ci Yvan Calbérac. Il y a une phrase de Chaplin qu'il adore. Il apprécie tout particulièrement. La phrase commence par « Quand le clown a fini de faire rire, il sort... »
Mort.
Pleurer ?
Il sort mort, non. Il sort. Ah ouais, elle est forte cette phrase. Il sort. Mais il y a un peu. C'est pas pleurer, non. C'est pas
triste,
mort.
C'est un verbe.
Alors. Non, c'est pas
déprimé.
Un verbe. Non, il sort un objet.
Ah, il sort
son mouchoir.
Non.
Son pistolet.
Non.
Pensez à Chaplin.
Clown, sa corde. Ouais. Son chapeau.
Non,
sa canne.
N'êtes pas.
Ses chaussures.
Non. Okay.
Sa moustache.
Clown, non.
Son miroir.
Il sort.
Pensez à Coluche aussi.
Son nez.
C'est mortel.
Non.
Sa salopette.
Sort en boîte.
Non, il sort en boîte, c'est vrai aussi. Quand le clown a fini de faire rire, il sort...
Discuter, c'est pas un
misérable.
Verbe à dire. Hein.
C'est évidemment en opposition au rire.
Au
donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Alors non, mais ça peut faire tirer les larmes. Non, pas le mouchoir, non.
Sort son oignon.
Non plus.
Ah, ça rime.
Ça rime, c'est vrai que ça rime.
Sort son...
On reconnaît l'auteur.
Son, ça rime. Ça
non, son.
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 Son. Son. Son. On l'avait tous en tête pour la bannie. Quand il a fini de faire rire, le clown sort sa bite. Ça me paraît évident, mon vieux.
Ça rime pas.
Tout le monde l'avait au bout des lèvres et on était là.
Non, pas tout le monde.
Ah, c'est pas fait. Non, monsieur, je pense. Tout le monde était là, je la sors pas. On la connaissait en plus. Pourquoi sortirait-il ? Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est Charlot qui a dit ça ?
Yvan Calbérac, quand le clown, donc phrase de Chaplin, quand le clown a fini de faire rire, il sort.
Son violon.
Son violon. Ah, c'est beau.
Je préfère la version de Benoît.
C'est beau.
C'est beau. Oui, je peux te dire.
Ah, ça dépend.
Ah, parce qu'un mec qui joue mal du violon, je peux te dire, c'est pénible. Oh là là, tu dis, oh là là, j'aurais préféré que tu sors le rôtir.
Est-ce que ça, c'est aussi un conseil d'auteur, finalement, c'est-à-dire après un moment d'humour, de rire, de comédie dans un film, dans un roman, dans une pièce, il faut arriver avec une douceur, avec un moment d'émotion ?
Je sais pas s'il faut, mais moi, ce sont les œuvres que je préfère, en fait. J'adore les œuvres qui sont à la fois drôles et émouvantes, qui soudainement nous entraîne dans une profondeur à laquelle on s'attendait pas, et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire dans le film.
Mais ça reste de l'émotion, de toute façon, rire, larmes, tout ça, c'est l'émotion qui compte.
Bien sûr. Absolument. Moi, j'adore qu'on soit à la fois rire et ému en même temps. Pour moi, c'est la marque des grands auteurs quand on arrive à faire ça.
Est-ce que vous demandez autour de vous, lorsque vous écrivez une pièce, un roman, un scénar, si l'émotion, si ce qui vous touche, touche le lecteur, touche le futur spectateur, ou est-ce que vous êtes votre propre baromètre d'émotion?
Ah bah, on est obligatoirement son premier baromètre. Après, effectivement, on teste. Hein. Mais oui, moi, je pars du principe que je dois d'abord, moi, être touché.
Et qui est votre goûteur d'émotion?
Et rire aussi, je dois d'abord moi-même être le premier à rire. Mon entourage, ma productrice, mes collaborateurs, tous les gens qui sont autour de moi.
D'accord. Dans quel gros succès qui a fait des millions de spectateurs, Benoît Poulvord a-t-il refusé de tenir le premier rôle?
Podium.
Non.
Mais non
il...
Bienvenue.
Non.
Attends,
c'est aussi gros.
La grande vadrouille.
Non. Bah ouais.
Comédie.
Ouais, comédie. Et non, mais c'est refusé. C'est pas genre non, mon planning ne me permet pas de. Ça, c'est non, je ne veux pas.
Le bon Dieu.
Non.
Les petits mouchoirs.
Mais non. Un énorme succès.
Astérix. Français.
Non, plus.
Cinéma français. Il y a quoi, 20 ans, 10 ans?
Là, oui, il y a.
Camping.
Non, un bon film.
Ça scude le lundi.
J'attends avec impatience l'arrivée de
Attends,
du Bosque.
Eu, les gros cartons, c'est quoi en comédie? Attends, on a dit
énorme carton.
On a dit
énorme carton. Et il a dit je ne peux pas, je ne peux pas jouer ce rôle-là, je ne peux pas rester comme ça dans le personnage.
OSS?
Non, plus fort encore.
Intouchable.
Oui.
Ouais, bravo.
Intouchable. Le rôle de François Cluzet.
Ouais, c'est vrai.
Intouchable.
Ouais, je l'ai essuyé. J'aurais été incapable de rester
dans le fauteuil.
Dans le fauteuil, ouais. Mais j'ai une nature comme ça, donc c'est pas du tout parce que j'avais pas le scénario, c'est que j'aurais été incapable de faire ce que fait François Cluzet, incapable. Savoir rester sans bouger.
Sans rien dire.
Sans rien dire, qui plus est. Moi, j'avais vraiment mal lu le scénario. Parce que moi, je pensais que je parlais encore à un moment ou à un autre. Ah, il parle même pas.
S'il parle un petit peu.
Non, je le ferai pas. Ça, je l'aurais pas fait. Non, je l'aurais pas fait.
Vous l'avez bien fait quand même.
Non. Je le sais, j'aurais rendu la vie épouvantable à toute l'équipe. T'imagines?
Pour le rôle d'Omar.
Il faut que je marche, que je cours.
Non, c'était pour le rôle de Cluzet.
Non, pour le rôle de François, hein, ouais. J'aurais jamais pu.
Pour le rôle de Cluzet.
Et franchement.
Avec le recul, aucun regret.
Mais j'ai jamais aucun regret là-dessus.
Non,
jamais.
D'accord. Pour Yvan Calbérac, dans l'acte créateur, il y a 5% de création et 95%
de chance.
Travail.
Non.
Travail.
Ouais, je vais prendre travail.
De sueur.
De sueur, en fait.
De transpiration.
Ouais. Ah ouais?
Avec Benoît Poulvord, il y a 95% de transpiration, en tout cas, ça, je vous le confirme.
Ça, vous pouvez me
dans la caravane.
Non, est-ce que vous minimisez pas quand même 5% de création? C'est pas.
Non, en fait, c'est même pas de moi, c'est de Truffaut. Il disait 10% de création, 90% de transpiration.
Donc vous avez changé le dosage, vous avez dit 7 mois. C'est classe, c'est chic.
Non, je sais pas si j'avais dit ça.
Que s'est-il passé dans le film Raoul Taburin quand Benoît Poulvord a enfourché le vélo pour faire rire?
Il a chuté, il s'est fait mal. C'est quelque chose, le coude, non?
Le poignet.
C'était une autre fois.
Non, c'est ça, tu t'es cassé le poignet.
Là.
Ou le coude.
17 points.
Aïe, aïe.
La terrible triade du coude.
Il faut.
La terrible triade du coude. Je ne plaisante pas car le chirurgien qui m'a soigné était un argentin. Et il me l'a dit à cette vitesse-là. Bon, avant de t'aider, il me dit à les coudes.
Je vais te niquer le coude.
C'est très, très douloureux. Très.
Il faut quand même expliquer ce qui s'est passé. Il y a un vélo sur le tournage.
C'est incroyable.
Et vous voulez faire rire?
Non, même pas. Absolument pas.
Ah,
je ne devais pas monter du tout dans le film sur ce vélo. Simplement, à la fin, je devais tomber parce que c'est écrit dans le scénario. Et il n'y avait aucune. Il était 10h du matin, il n'y avait absolument pas besoin de. Simplement, je voulais tester pour. C'était les deux derniers jours du tournage. Je voulais tester ce vélo sur lequel je n'étais jamais monté. Comme j'avais déjà fait un film sur le vélo, je suis monté dessus avec une certaine assurance. Vous me connaissez, j'en ai rajouté un petit peu du style. Ça va, c'est pas ma première bécane. Doudou les mômes.
Mais il y avait
5 mètres.
Il n'y avait plus de frein.
Et les freins étaient au mauvais endroit.
C'est ça.
Ils étaient devant et pas sur là. J'ai freiné, j'ai fait ce qu'on appelle une chandelle, un soleil. Voilà. Et j'ai voulu me récupérer sur mon bras droit. Hélas, hélas, ça ne s'est pas passé. Donc.
Est-ce que le tout pour la vanne, le célèbre tout pour la vanne, vous met par moments dans ce genre de situation, soit vous faire mal, soit...
Là, ce n'était pas pour faire une vanne, hein, sincèrement.
D'accord.
Là, je me la suis pété.
Ok.
Alors, est-ce que pour la vanne, je faisais ça beaucoup plus jeune.
Et sur podium, je disais que...
Sur podium, je suis cassé
vous,
un...
Ouais. Ouais, vous amusiez à faire semblant ouais. tomber dans les pommes.
Le Bobby Brown ouais. C'est un truc, mais je vous invite pas à le faire, parce que je me suis quand même pété l'épaule avec ça. Et ça faisait énormément rire Gérard Lanvin. Et je me mets dans n'importe quel endroit, vous me mettez n'importe où,
et, vous tombez.
Et je me laisse tomber. Comme si je m'évanouissais, tu vois. Et c'est très très surprenant. Enfin,
ça,
tu te mets dans un bar,
marche,
dans un
ça
café,
marche, ça marche,
ça marche du tonnerre de Dieu. Et plus tu te laisses aller, plus c'est impressionnant, quoi, tu vois. Donc, je l'ai fait, puis un jour, je suis vraiment mal tombé dans une boîte de nuit, pas loin d'ici d'ailleurs, ici juste à côté, le Zébra.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Ils n'ont jamais autant ri, j'ai jamais si bien fait. Mais le lendemain, j'avais.
Mais tu t'es pas relevé, quoi, c'est ça ouais. le bras cassé.
Et je ne disais rien, il n'y a rien de pire parce que je dis, ah, je suis mal tombé cette fois. Et j'étais en train de m'entraîner pour podium.
Pourquoi
pour... expliquer ce que tu faisais. Va expliquer au médecin. Quand j'ai expliqué, il m'a dit, ça consiste en quoi, votre truc?
Regardez.
J'ai dit, bah, on appelle ça le Bobby Brown. Bah, tu sais comment les médecins sont, ils disent. Ah bah, je trouve ça complètement con. J'ai dit, oui, je sais. Vous savez comment vous allez finir dans 20 ans, vous aurez mal partout. Hein. Oui, je sais, pardon. Donc... Bobby Brown, je t'en foutrais, moi, du Bobby Brown.
Pourquoi sur le tournage de Venise n'est pas en Italie, Yvan Calberin, qui a eu beaucoup de mal à trouver des... Enfin, sur les rushs, il y a eu beaucoup de rushs où la caméra tremblait. Pourquoi ?
Des rires ?
Les pavés ?
Exactement. Non, c'était des rires. Des rires du cadreur, du caméraman.
Ouais, c'est vrai.
Tu regardes, vous regardez encore Benoît Poulevent.
C'est vrai que Benoît et Valérie s'entendent très très bien et qu'ils avaient une complicité à l'écran qui faisait qu'ils... C'était très très drôle et le cadreur qui est plutôt un mec assez stoïque, hein, d'habitude, par moments il tremblait tellement il riait et même il pleurait parfois de rire. Et
donc, solution, il faut prendre un cadreur norvégien qui parle pas la langue, quoi.
C'est ça.
Vous êtes pédard.
On était presque là. On a un peu recadré, on a stabilisé. Maintenant, on a des moyens techniques qui permettent de stabiliser des images et on a eu besoin de le faire parfois. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a eu des plans que vous n'avez pas pu mettre parce que la caméra a bougé ou c'est quelques rushs, quelques scènes où finalement il y avait quand même une.
Non, tu savais souvent que c'est vers la fin qu'on dit des âneries. Tu vois ?
Vers la fin de...
D'abord, le film est drôle sur les trucs, mais une fois que tu l'as recommencé 5-6 fois, bon, le cadre s'habitue. Mais après, on savait bien que les blagues qu'on allait lâcher, Valérie et moi, ça serait sûrement sur les fins de...
Mais oui,
les
mais
fins de séquence, donc ils savent bien que...
Yvan aurait pu être gourmand de ces
Ah, mais ils les
vannes,
ont gardés, justement. Ils ont fait un chutier. Alors j'ai demandé, parce que c'est la monteuse qui m'a dit, oh là là, on a un chutier incroyable. Alors j'étais tout content, j'ai dit, qu'on gardera, tout ça, je dis... Mais c'est rigolo, elle me dit, oh oui, j'ai ri. Puis à un moment, un petit peu inquiet, je dis, c'est pas trop pipi caca ou... Et puis elle me dit, ah si. Ah si, ça n'est que ça, mon vieux. Dis, ah bon, à ce point. Ah oui, ça n'est que ça. C'est pipi caca zizi, tout ce que tu veux.
Justement, là. Tiens.
Rien de relevé, je te le dis tout de suite.
Si je vous dis.
Pour les enfants de 4 ans, quoi. Alors là, tu peux l'envoyer chez Disney, quoi. Ah, tu penses.
Non, Disney, peut-être pas, non.
Non, peut-être pas Disney, non. Non.
Si je vous dis, à propos de Benoît Poulevent, l'intime, je parle de quoi ?
Des confessions ?
Non.
Il parle de quelque chose de son corps, une partie de son corps ?
Non.
Un animal ?
Non.
L'intime ? Ah, c'est le festival à Namur !
Exactement.
Ah mais oui, fin août !
Exactement.
Ben oui.
J'ai un festival à Namur.
Je sais.
Enfin, il ne m'appartient pas, mais c'est un festival qui parle de l'intime. Enfin,
non, mais vous,
ça veut rien dire,
oui. Vous l'avez créé ?
Oui, je l'ai créé il y a 7 ans. Ouais, c'est la 7e année cette fois-ci.
Comment
ça
est
fait
né...
qui tourne autour de l'intime, l'intime festival, on dit.
Comment est née cette envie ?
Oh, c'était une envie... je trouvais qu'on galvaudait un peu... Le mot de l'intime, le principe de l'intime, c'est-à-dire il y a des choses que, même si on a décidé de parler de soi, même si on a décidé d'écrire sur soi ou de dessiner à partir de soi, à un moment, je trouvais qu'on confondait l'intime et la curiosité ou le déballage. Mmh. Et donc, je trouvais que la littérature, le cinéma, la photo, étaient quelque chose de... Ce sont des médias assez... Enfin, je veux dire, assez élégants pour qu'on puisse les utiliser avec intelligence. Et j'adore les livres lus, par exemple. J'adore la voix humaine.
La lecture, donc.
Voilà, la lecture et la voix humaine. C'est parti de là. Hein.
Ouais.
Je trouve que c'est très important à notre époque de reprendre le temps. Alors, vous allez me dire, venant d'un mec qui n'arrête pas de parler, je dis, je sais, c'est très paradoxal. Mais
bah non,
je
dis, non, au contraire.
De reprendre d'écouter.
Au contraire.
De reprendre le temps d'écouter les mots.
Quel genre de voix vous aimez ?
Oh, je les aime. C'est pas tellement qu'une voix soit belle, c'est qu'elle.
Ce qu'elle raconte.
Pour moi, la voix est plus forte que l'image. Donc je regarde très peu la télévision. je préfère d'ailleurs, je vais pas dire ça parce que j'étais à la radio, à dire le gros démago, mais c'est vrai que je, même si je devais écouter, j'écouterais la télé plus que de la regarder. Mmh. J'en suis certain. La voix, c'est pas tellement qu'elle soit belle, c'est qu'elle soit sincère. Je pense que c'est la chose qui est la plus... Enfin, quand on est dans la communication, c'est la chose la plus sincère, c'est la voix. Vous pouvez pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs.
On peut pas trahir, ouais, la
ouais,
voix.
Ouais, quand j'ai dû faire podium, par exemple, je pense que la chose qui m'a le plus coûté, c'était de chanter. Et j'ai beaucoup d'admiration pour quelques chanteurs que ce soit, qui chantent comme ça en public devant des gens.
Là, enfin, pardon, c'est pareil pour les acteurs.
Je fais pas de pièces de théâtre. Moi. Je pense que ça doit être la même chose pour les acteurs
au cinéma,
de théâtre.
La voix compte aussi. Silence. Alors, je sais que les silences sont plus rares chez vous, mais le silence.
Ils sont carrément inexistants.
Et donc, ils sont précieux, justement.
Que là, j'ai dû me taire 3 jours parce que j'ai une bronchite et ça a attaqué mes. Enfin, parce que c'est compliqué à expliquer, mais je reprends quand même un peu de force. Mais la voix, pourquoi? Voilà, donc le festival de l'intime. Et alors, je cherche des textes. Alors, c'est pas du tout de la promo, hein. Des textes ou des.
Actuel
et ensuite, on cherche une voix qui correspondra.
Ouais. D'accord.
Et c'est très important, parce que les gens s'accaparent le texte, il n'y a pas de prépa. Et je vous assure que vous n'avez même pas besoin de... Enfin, c'est toujours très beau à regarder quelqu'un qui lit, mais la voix, voilà. Et je suis un grand fan des livres lus, de... Je suis un fan de tout ce qui est autour de la voix.
La période où a lieu ce festival de l'intime,
c'est vraiment une période tout pourrie pour tout le monde. Enfin, c'est les derniers week-ends du mois d'août. Ouais.
Très bien.
Donc, et je sais, on me dit toujours quelle date de merde. Et je dis, j'en peux rien.
Non, c'est très bien.
Et ça fête sa 8e édition cette année.
7e cette année.
7e cette année. Très bien. Revenons donc à ce film qui sortira en salle.
Bah, merci de m'avoir permis d'en parler.
Je vous en prie.
Plaisir. Sinon, on se dit, le gars, il joue.
Benoît est un grand fan de littérature aussi. Hein. Il m'a fait découvrir des bouquins. On ne sait pas, mais Benoît lit beaucoup. Entre les prises.
Il en parle très bien en plus. J'ai eu l'occasion de l'entendre en parler. Ouais.
Ah, vous êtes gentil.
Venise n'est pas.
C'est ma journée aujourd'hui.
Venise n'est pas en Italie. Le film sortira le 29 mai.
C'est ça.
Pas ce mercredi en 8, comme l'on dit, avec ce road movie. Il paraît que vous rêviez de faire un road movie.
Ouais, c'est vrai que c'est un genre. Enfin, c'est pas qu'un road movie parce qu'il y a une partie road movie dans le film, mais c'est vrai que.
C'est un voyage initiatique.
C'est un voyage initiatique. Voilà, c'est un voyage à la fois extérieur parce qu'ils vont d'une petite ville de France à Venise, mais c'est aussi un voyage intérieur. C'est un film qui parle de grandir. C'est un adolescent qui va grandir, mais aussi ses parents qui vont grandir. Tout le monde va grandir dans cette histoire.
Ouais, les relations dans la famille vont aussi évoluer. Ouais. Le regard que les uns peuvent avoir sur les autres aussi. Et paradoxalement, oui, c'est un road movie. Paradoxalement, c'était un roman. Donc là, on peut se permettre de bouger, de voyager. Pièce de théâtre, impossible. Et pourtant, ça a été le cas.
Oui, la pièce de théâtre, c'était par hasard. C'était un seul en scène. C'est Thomas Oliveres qui, pour la soirée de lancement du livre, avait lu des extraits. Il interprétait tous les personnages. Il était tellement génial qu'on a décidé d'en faire un seul en scène. Mais moi, j'avais plutôt l'idée d'en faire un film dès l'écriture du roman, en fait.
Et ça vous a aidé de tester, entre guillemets, les moments de rire ou d'émotion sur scène?
Ça m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des moments très drôles et en même temps des moments de forte émotion. Et ça a préparé l'adaptation cinématographique, ouais.
Alors ce père, Benoît Poulvorde, que vous incarnez, on a l'impression que par moments c'est une espèce de gros beauf qui se rend compte de rien. Et finalement, dans ses excès ou dans ses délires, il va soutenir, accompagner, épauler son fils qui
ouais,
est
c'est déjà une
fragile.
Plaie quand même d'avoir ses parents qui t'accompagnent pour ton premier rendez-vous amoureux. Hein, je pense qu'on l'a précisé.
C'est
son premier rendez-vous amoureux. Alors il se dit, tiens, j'irai bien à Venise.
On va le préciser.
Sans mes parents.
Non, mais c'est vrai, on va le préciser.
Et donc
c'est,
le gamin.
C'est Pauline, dit... Pauline invite le petit Émile à venir assister à un concert.
C'est enfin, ça.
Du moins, elle dit, je suis en concert à Venise. Et lui, il fait genre, ah ben, c'est cool, j'y suis. Et totalement bidon.
Voilà, c'est une famille assez friquée. Donc. T'as 14 ans, tu te dis ça va être ton premier rendez-vous amoureux. Bon, il a des parents un peu singuliers, c'est le moins qu'on puisse dire.
Beaucoup moins friqués que la famille de Pauline.
Voilà, ils vivent dans une caravane parce qu'ils ont acheté le terrain, mais ils peuvent pas encore bâtir dessus.
Ils ont pas
le permis. C'est compliqué. Il fait du tai chi le père, c'est un type heureux. Donc Bernard Chamonneau, impossible, n'est pas Chamonneau. Ils n'ont pas les moyens d'aller à Venise. Mais son idée géniale, c'est de dire, non seulement on va y aller, tu vas y aller à Venise, mon petit bonhomme, mais on va y aller tous ensemble. Ah, ça, c'est ce qui peut arriver de pire.
Oui. Avec la caravane.
Avec la caravane. Donc, la grosse caravane derrière qui fait pas classe. Tes parents qui sont un petit peu à la marge. Et tu dis, pour ton premier rendez-vous amoureux, ça sent pas bon pour le gamin. Mais le père, comme on dit, pour répondre, il doute de rien, quoi. Pour lui, en plus, il fait une paire de coups parce qu'il avait promis à sa femme, Valérie Bonneton, qui est exceptionnelle dans le film. Et je tiens à le préciser.
C'est vrai.
Et Il lui avait promis, je t'emmènerai un jour à Venise. Vingt ans plus tard, lui dit, et en plus, j'ai toujours promis à ta mère qu'on ira à Venise.
Et ça devient le voyage.
Elle a une opération dentaire, tant pis pour les dents. Et une attention à la peur des camions. Oh non, je ferai un effort. Non, elle continue à avoir peur des camions. Ça, c'est quand même un truc qui fait hurler de rire. Comment
scène.
Allez-vous à Venise dans une grosse Volvo?
En évitant les camions.
En ayant très très peur de tous les camions.
Et en n'ayant pas les moyens du voyage, même quand, lorsqu'ils vont dans une pizzeria, la seule pizza qu'ils puissent payer, c'est la marguerite à 10 euros, parce que s'il y a le moindre accompagnement ou le moindre légume en plus, c'est mort, c'est trop cher pour eux. Donc il y a cette élégance face à la situation au rang social. Il ne veut pas passer à côté de certains moments de la vie à cause de l'argent. Donc, peu importe, on va quand même vivre
la
vie.
C'est ça, il trouve des solutions. C'est ça qui est hyper touchant dans cette famille.
Absolument.
Je
ne
crois pas que ce soit des beaufs, parce que Bernard, il fait plein de citations. Ils sont cultivés. Ils vivent en caravane, mais ils sont cultivés. C'est des gens assez inclassables.
Je retire beauf. Il est...
Oui, parce qu'en plus, c'est quand même tiré en partie de sa famille.
C'est malade. Il est maladroit.
Presque autobiographique.
Non, c'est pas autobiographique. C'est inspiré de certains souvenirs, parce qu'effectivement, j'ai vécu.
Ça n'engage que toi, son père est lutteur. Je préfère te le dire.
Ah bah écoute, pour avoir vu une autre pièce de théâtre avec ce qui se passe avec son père, j'ai au contraire beaucoup de respect pour la.
Tu vois, il y a les bolos. Hein.
Les amours multiples, hein, c'est
non,
ça.
C'est vrai que j'ai vécu la pièce, teinture de cheveux. Hein.
La pièce.
Mes parents teignaient vraiment les cheveux quand j'étais petit.
La pièce avec Patrick Chesnais.
Oui, et plusieurs femmes, oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est une. Mais encore
ça, c'est
une
pas tout à fait autobiographique, c'est un petit peu romancé.
Non, mais on va
même
dire que c'est des parents qui sont un peu embarrassants, comme pour tous les adolescents,
voilà,
au moment où
exactement.
On veut aller voir une petite chérie, et qu'en plus on n'appartient pas exactement au même monde, et qu'on se dit qu'on va être jugé, et qu'on risque de perdre l'intérêt d'une fille, parce que déjà c'est un intérêt qui semble surnaturel pour ce petit garçon, de se
absolument.
Dire que cette fille-là s'intéresse à lui. Si en plus on doit lui montrer l'envers du décor, il y a des chances qu'on la perde. En
ouais,
gros,
c'est ça.
Il
n'a
pas honte, mais en même temps il est embarrassé.
Il est embarrassé. Ouais. Et cette grosse caravane, elle symbolise un peu cette famille lourde à porter, en fait, qui traîne tout le long du chemin.
Et qui casse, et qui a des problèmes, qui a des problèmes techniques. Donc là aussi, c'est-à-dire que c'est pas un voyage comme ça d'une traite, tout
simple. Ah non, c'est un voyage avec plein de péripéties, parce qu'en plus, le père, il fait du covoiturage pour équilibrer les frais, mais il avait prévenu personne.
Et il y a le grand frère aussi
qui va
venir s'en
prévenir. Donc en fait, ça n'arrête pas.
Grand frère qui peut paraître au début
un peu dur,
pas sympa,
on peut dire ado casse-couille.
Voilà, et qui va être complice.
Et qui va être génial, en fait.
De l'histoire d'amour. Absolument. Et puis il y a votre élégance, là je parle à Yvan Kelberac, l'auteur, l'élégance de faire aussi tourner Nicolas Briançon, qui était dans la concurrence aux Molière, et là vous le faites tourner aussi dans le film, c'est trop
ouais,
la classe.
C'est un copain.
Bon, tout va bien alors, c'était juste une vanne de copains alors. Venise n'est pas en Italie, ça sortira le 29 mai, c'est évidemment drôle, touchant, émouvant, et puis le casting est bluffant, Benoît Poulvord, Valérie Bonneton, on l'a dit, Élie Tonna, Eugène Marcuse, Colline Dinca, Luna Lou, Nicolas Briançon, je viens de le dire, Véronica Novak, entre autres, tout le monde est extrêmement juste, mais lorsqu'autant de comédiens sont justes, on va se dire aussi que c'est un peu aussi la faute du réalisateur et du metteur en scène. C'est Yvan Kelberac. Père Albert, ce film est un succès annoncé.
Cher Nangui, eu égard aux grandes qualités d'auteur et de metteur en scène, tant sur les planches qu'à l'écran, vous venez de le dire, d'Yvan Kelberac, coucou Yvan.
Salut.
Et compte tenu du talent exceptionnel de comédien de Benoît Poulvord, coco Benoît. Eh bien, il n'est point besoin d'être prophète pour prédire le succès de Venise n'est pas en Italie. N'est pas en Italie. J'ai fait la liaison. Parfois, ça m'arrive de me tromper. Comédie dont j'ai compris, Nangui, qu'en la regardant, vous vaut gondolier. Venise, gondolier, vous avez saisi la vanne. Merci.
J'ai pas la batterie, mais ça mérite. Hein.
Je sais, Nangui, je n'aurais pas dû, car je sais que vous ne prisez guère les calembours. Tiens. Juste avant l'émission, alors que GNB, notre rédac-chef de Coulommiers, venait de vous donner le titre du film de nos invités, vous vous êtes exclamé « C'est quoi ce titre à la con? Ils ont dû se tromper. Tu peux vérifier si Venise est bien en Italie ?» Ce à quoi GNB, croyant vous faire rire, vous a répondu « Enquin, oh mon bon maître, je vais tout de suite combler votre lagune. Venise, lagune !» Et il s'est pris un coup de boule qui n'a fait qu'aggraver les ecchymoses dues aux précédentes mandales infligées par vous-même. Plus sérieusement, une autre vertu de ce film est qu'il s'agit d'un film familial. Certes, Bernard Chamodot, le papa d'Émile, vous, en l'occurrence, Benoît, est un papa complètement agité du bocal. Quant à la maman, incarnée par Valérie Bonneton, elle est en proie à d'impayables pétages de plomb. Toujours est-il que, nonobstant ces légers troubles du comportement, tous deux démontrent que pour le bonheur d'un enfant. Rien ne remplace l'amour de ses deux parents unis. Oui, il n'y a rien de plus beau et de plus rassurant qu'un papa et une maman. Un papa et une maman. Un film familial, donc, doublé d'un roide mauvais qui m'a remis en question. Vous savez que ma camionnette au monnerie bâché cuir clouté noir,
oui,
qui fait aussi truc foot, stand de tir, salle de shoot et de muscu, bétailleur à cochon, urne électorale, urinoir public, est garée toute l'année au bois de Boubou. Eh bien, comme Bernard Chamodeau dans le film, comme il le fait avec sa caravane, j'ai décidé de prendre la route à la rencontre de jeunes en recherche, les vrais blancs comme les faux. Le moteur tourne et je suis mal garé, aussi vais-je vous laisser. Bonne émission.
Merci.
La boule originale. Sur France Inter.
Et Yvan Calberac, vous avez vraiment eu la décoloration de cheveux lorsque vous étiez petit ?
Oui, oui, mes parents me teignaient vraiment les cheveux en blond. Ça a duré de 7 à 13 ans et ils m'avaient convaincu que c'était dans mon intérêt. Donc,
pour être beau.
Ouais, pour être beau. Donc, pour être plus. Voilà, donc je me laissais faire. Et
sauf que voilà, toi, apparemment, ils continuent, tes parents, toi.
Le reste n'est pas vrai, mais ça c'est vrai. Ouais, 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 absolument. Et j'ai trouvé que c'était. Ce qui m'intéressait, c'est pas de raconter ma vie, c'est que, en fait, il y a quelque chose d'universel là-dedans, c'est qu'on a parfois du mal à accepter ses enfants tels qu'ils sont. Mmh. Et sans aller jusqu'à leur décolorer les cheveux, parfois on attend
souvent,
des trucs.
Pardon, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les parents trouvent plus beaux les enfants qu'ils ne sont. Il y a plus ce côté, il est beau mon fils, qu'il faut lui faire une chirurgie esthétique.
Mais pas dans le sens beauté, dans le sens, on a un enfant sportif, on voudrait qu'il soit fort en maths.
Ah, oui, oui.
On
ça.
A parfois, on attend parfois.
Idéaliser les choses. Et puis,
les attentes, toi.
Il y a la première histoire d'amour, ça, elle est formidable. Cette histoire d'amour, elle est formidable, la manière dont elle naît, il est formidable la manière dont lui-même ne croit pas en lui, Émile, c'est-à-dire qu'une fille puisse s'intéresser à lui, avoir envie de le voir jouer de harpe.
C'est sûr que
la barre est haute quand même. Hein.
C'est sûr. En plus, il manque de confiance en lui terriblement.
Sauf qu'il est bon. Il est bon en maths.
Il est bon en maths, mais ça donne pas confiance vis-à-vis des filles. C'est comme on lui a décoloré les cheveux, il y a quand même une sorte de faille en lui, et c'est ça qui le rend touchant, je pense.
Et il a des trous aux chaussettes. Là aussi, il est touchant lorsqu'il doit aller chez donner un cours particulier et se déchausser pour ne pas salir la maison. Il a, entre guillemets, honte. Et cette scène-là, je ne sais pas si c'est du vécu, mais tellement drôle, où il enlève ses chaussettes, où il les met dans la poche de son pantalon et où il se balade pieds nus. Point de suspension à voir dans le film, c'est à hurler de rire. Venise n'est pas en Italie, c'est la chanson de Serge Reggiani qui est là.
Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux.
Venise n'est pas en Italie, mais Jérémy Crédville est sur Inter.
Exactement. Salut Benoît. Salut à vous, bande de fœtus arrivés à terme. Tiens, en parlant de fœtus, la semaine dernière j'ai mangé un hamburger.
Oh non.
Mais, bon là, non, mais le rapport n'est pas évident, mais non. C'était dans un restaurant américain.
Et alors attends,
oui, non, il y a toujours pas de rapport.
Non.
Si, en Alabama, il y a eu le vote de la loi la plus répressive des États-Unis concernant l'avortement. Et là, il y a un rapport. Pas toujours consenti d'ailleurs, puisque cette loi interdit les IVG, même en cas d'inceste ou de viol. Voilà, en Alabama, il y a plus de femmes, il y a que des réceptacles. Après tout, si elles tombent enceintes, c'est qu'elles l'ont bien cherché. Elles se promènent comme ça avec des ovules. Il y en a même qui mettent des jupes, mais si. Oui, bon, ça va. Et après, elles vont se plaindre au planning familial. Alors qu'elles exhibent leurs cheveux. Oui, bon, ça va. D'ailleurs, j'ai appris un truc. Au planning familial, on dit pas une poubelle, on dit un compost. Je sais pas si vous vous rendez bien compte.
Non, mais
je sais pas si vous vous rendez compte. Rendre impossible l'avortement, même en cas de viol, c'est honteux. C'est-à-dire que le mec va être puni deux fois. La prison et la pension alimentaire. Non, mais c'est vrai, ça va être sympa le week-end sur deux qu'il va passer chez son père, le gamin. Papa, on sort ? Oui, mon chéri, dans 55 ans. Voilà. Moi, je suis papa depuis 10 mois, donc forcément l'avortement, je suis pour.
C'est dégueulasse.
Attends, j'irai même plus loin, Nagui. On devrait même pouvoir avorter après la naissance. Hein. T'attends de voir ce que devient ton gamin. Et si, par exemple, à 50 ans, il est élu républicain en Alabama et s'apprête à voter une loi débile, t'as le droit de t'en débarrasser. Faut juste prévoir un très gros aspirateur. Tiens, on me dit que Dyson est déjà sur le coup. Putain, c'est cher. Oui, mais ça marche tellement bien, regarde. Silence. Ce sont 25 hommes blancs qui ont voté cette loi en Alabama.
Je te rends pas compte, c'est dégoûtant ce que tu fais.
Non. De quoi ? Bah attends, c'est pas pire que le vote. Non mais donc c'est les mecs, vrai. Ils ont pas d'utérus, mais ils ont un avis. La seule chose qu'un homme devrait pouvoir choisir à la place d'une femme, c'est le vin. Moi, je pense qu'ils se sont réunis. Ils ont créé un petit jeu.
Il va tellement vite, il faut bien retenir.
Oui. Là, ils se sont réunis, ils ont créé un jeu. Bon, les gars, pour mettre un peu de piment dans notre job, on va voter pour le truc qui nous concerne le moins au monde. Oh, putain, bonne idée, Will. Merci, Dan. T'es vraiment le meilleur, Will. Alors, arrête, Dan. Je peux te sucer. Bon, non. Tu sais bien que je suis majeur. Bon. Il n'y a pas que des hommes à l'origine de ce texte anti-avortement. C'est une femme gouverneur qui a promulgué la loi.
Non.
Oui, en foot, ça s'appelle un CSC, un but contre son camp. Le seul point commun entre ces 25 hommes et cette gouverneure, à part la connerie, c'est qu'ils sont tous chrétiens fondamentalistes. Ben, n'empêche, si l'avortement avait existé quand Marie était tombée enceinte, il n'y aurait peut-être pas de chrétiens fondamentalistes, finalement. Hein. Puis c'est fou, comme les chrétiens fondamentalistes sont quand même beaucoup plus forts pour lutter contre les femmes qui ne désirent pas d'enfants que contre les prêtres qui les désirent trop. Selon cette loi, les médecins qui pratiqueront les IVG, c'est vrai, sont passibles de peines d'emprisonnement allant de 10 à 99 ans. C'est complètement con, hein, puisque 10 à 99 ans, c'est la durée moyenne des études pour devenir médecin. Alors, évidemment, Trump soutient la loi IVG. C'est marrant, ça. Dès que Trump soutient un truc, c'est de la merde. C'est génial. Non, mais à quel moment les gens se disent qu'une femme avorte par plaisir? C'est pas une activité physique dans laquelle tu t'inscris pour passer le temps. Moi, tous les week-ends, je joue au foot, mes enfants vont au tennis, ma femme, bon, elle a IVG. Donc, tu peux être sûr que si les hommes tombaient enceintes, ils pourraient avorter avec un tic-tac. Ce serait beaucoup plus simple. Moi, j'aimerais m'adresser aux opposants à l'avortement. Pensez au bruit que font les enfants, aux cris, à leur besoin de courir partout et tout le temps. N'oubliez jamais qu'une IVG aboutie, c'est la garantie d'un voyage en TGV réussi. Et puisqu'on est dans les rimes, on va terminer en chanson. Tiens. Jean-Jacques chante mal, c'est parti. Si c'est une femme, c'est pas un four. Toi, tu t'en fous, t'as joui après deux allers-retours. Elle tombe enceinte et tu prends peur. Et tu te barres et tu t'en veux car c'est ta sœur. J'ai pas choisi de naître ici. Je préfère ne pas sortir qu'avoir une vie pourrie. C'est leurs ovaires, pas vos affaires. Laissez les femmes décider de ce qu'elles veulent en faire. Alors le refrain, je vais le faire en voix de tête.
Ouais, musique, musique.
Allez, violon.
Avorte-moi, avorte-moi, avorte-moi. Enfant non désiré, je serai un fardeau. Avorte-moi,
c'est mieux.
Avorte-moi, j'irai à l'école des armes dans mon sac à dos. Avorte-moi.
Je
n'irai
pas plus loin.
La bande originale.
C'est devenu rouge.
Je respire, donnez-moi de l'eau.
Ce qui est formidable, c'est que regardez la vidéo de Jérémy Crédville, il a pris la couleur du logo France Inter. Et ça, t'es corporate, mon mec. Allez, musique encore avec ce que Benoît Poulvord écoutait en 1994. Je rappelle que Yvan Calberac et Benoît Poulvord sont nos invités pour parler de Venise n'est pas en Italie. Le film sortira le 29 mai et en 94. Donc, Benoît, vous écoutiez.
Votre visage.
Ah oui.
Aux yeux changeants.
Ah, j'adore cette chanson.
Comme la mer.
Charles Trenet.
C'est bon, du coup, ce qui vous a donné ça.
Paysage.
Non, c'est
je sais pas qui nous... Non, c'est vous.
C'est vous.
Ah, ouais,
c'est moi. Vous étiez en train de dessiner sur un...
Ah ouais, j'étais en train de... Oui, c'est Charles Trenet. C'est la fin de mon spectacle de modèle déposé. J'adore quand ça... Ah, c'est très beau. Et quand je suis déprimé, je chante. Regardez, écoutez. Et je suis
aussi ta jeunesse.
Ah, c'est magnifique. Mais je suis un fan de Charles Trenet.
Ça swing à fond.
Ah, c'est une très belle chanson.
94, toi, donc, votre one-man show, modèle déposé. Vous avez écrit avec Bruno Bellevaux.
Ouais.
Et à cette époque-là, vous parcourez la Belgique pendant quelques mois et vous le jouez ensuite au Café de la Gare à Paris.
Absolument, ouais.
C'est quoi l'idée de ce one-man show?
Oh, à l'époque, c'était sur l'excellence. Comment les hommes refusaient l'idée qu'une femme puisse mieux... C'était quand même déjà assez visionnaire. Mmh. Puisse mieux réussir que toi. Et comme lui était chercheur, c'était pas des spectacles, c'était un seul en scène, mais c'était pas des sketchs. Lui était chercheur, il se disait altruiste, il aidait les handicapés, il cherchait à travailler sur l'œil manquant. Visionnaire déjà pour les gilets jaunes. Non, c'est vrai, si ce spectacle sortait maintenant, franchement, il réfléchissait déjà à l'idée d'un œil totalement indépendant. Donc, il ne comprend pas que sa femme, qui elle chante une chanson idiote, elle fait un disque idiot, mais vraiment idiot, hein. de la musique idiote, avec des paroles idiotes, elle cartonne, quoi. Et donc, c'est toute l'aigreur d'un homme qui n'accepte pas que sa femme réussisse mieux avec quelque chose qu'il estime intellectuellement beaucoup
faible.
bien ouais. en dessous de lui. Et donc, c'est une heure et demie de
le mari de
d'amertume et de d'aigreur c'est à l'égard des
le gens. Mari de Jeanne Masse, un peu.
Quant à Yvan Calvera, que vous écoutiez justement Goldman.
C'est difficile après le premier.
Et vos rêves, justement, vos rêves de réalisateur sont nés comment ?
En fait, moi, je venais d'une famille modeste.
Reprenez une voix normale.
Pas du tout d'artiste. Non, c'est ma voix normale. C'est moche.
Essayez-vous correctement, monsieur.
C'est mes vrais cheveux.
Mais ça va, c'est un copain, il va en faisant tout la vanne.
Il n'y a pas de problème.
Donc dis-moi.
En fait, c'est venu. Au début, moi, j'ai fait des études de maths parce que mes parents voulaient que je fasse des maths et j'ai. Voilà, j'ai fait longtemps des études de maths. Puis
tiens, comme Mimille, tiens, comme par
voilà,
hasard.
Voilà, comme ça. Et en fait, j'ai été en fac de cinéma après un moment et j'ai vu un soir une séance de court-métrage et, d'étudiants et je me suis dit, oh là là, c'est pas si bien que ça. Donc je peux peut-être en faire un.
Ah oui, vous étiez déçu de ce que vous avez vu en disant, bah, donc moi je peux le faire.
Ouais, mais j'étais passionné de cinéma depuis l'enfance.
Et puis, vous devenez élève comédien aussi à l'école de la Belle de Mai.
Ouais,
à
j'étais
Marseille.
Très mauvais. Non, c'était à Paris à l'époque.
À Paris.
Ouais, la Belle de Mai vient de Marseille, mais l'école.
Ouais.
C'est,
vous étiez mauvais.
En tant que comédien, pas terrible, ouais.
Pourquoi
c'est, je sais pas, le talent, je pense que c'est.
Non, mais je veux dire, le travail la ne sueur. Peut pas. Vous pensez pas que le travail.
Non, j'étais plus destiné à écrire. D'ailleurs, dans cette école, à la fin de l'année, ils m'ont proposé d'être assistant mise en scène, donc le message était clair.
Ah ouais.
Qui est mauvais signe.
Voilà.
C'est à cette époque qu'avait été créée cette fonction, d'ailleurs.
Voilà.
Après, il reste attaché de presse.
Voilà.
Voilà. Tu vas t'occuper plutôt de la presse, du spectacle.
Non, et d'écrire avec eux le prochain spectacle.
Et c'est là que vous écrivez votre premier court-métrage, Trop de chance.
Ouais, c'est ça.
On n'y arrivera pas.
On n'y arrivera pas. Non. C'est ça, mon premier court-métrage vendu à Canal+, puis ça s'est enchaîné jusqu'à mon premier film Irène avec Cécile de France. Déjà une Belge, une attirance vers la Belgique.
C'est vrai, clairement. Je pense quand même que le scud du jour, Benoît, pardon, il est pour les attachés de presse, il était formidable celui-là. En 2002, Benoît Poulvord, écoutez.
Dans Paul Holler. Ah oui, Paul Holler. Ah, ça, j'ai une anecdote avec Paul Holler.
Paul Holler qui était le membre fondateur de Style Council.
Style Council, les chanteurs des Jam.
Et Jam.
Ouais, donc Paul Holler, je le suis depuis. Paul Holler. Je l'ai écouté punk, donc je l'ai écouté après Style Council, plus années 80, 90. Puis après, il a fait beaucoup d'acid jazz.
Et Jam,
et maintenant, il chante toujours.
Town Malice, c'était vachement bien. Et c'est génial.
Et j'ai pu le rencontrer.
Carrément.
Mon anglais est équivalent à mon italien dans le film.
Oui, d'accord.
Et donc, je connaissais la personne qui organisait le concert, c'était à Bruxelles. Pardonnez-moi, je viens de faire un petit rototo déjeuner.
C'est entendu.
Est-ce que c'est un petit rototo déjeuner? Ouais. C'est une orange avec le café. Pas très bon. C'est pour les voisins, ça va, mais on l'entend, il y a une sorte de petite prise de conscience, on se dit oh là 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 là, on n'est pas obligé. Maman, bah non. Et donc, mais non, parce que moi je l'ai entendu. Donc, et je dis, on nous propose de rencontrer Paul Weller. Et je me dis, mais oui. Et à l'époque, il avait sa bassiste qui était sa compagne. Je descends dans la loge. C'est toujours embarrassant d'aller rencontrer, surtout un chanteur de rock. Je descends. Et le type me présente. Et il était avec un grand manteau de ferrure. Et sa bassiste était là. Donc je baissais les yeux. Et devinez ce que j'ai dit.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Yes, I like very, very much your work. Et puis il m'a regardé, il m'a fixé en manteau de fourrure. Thank you. Ensuite j'ai regardé la bassiste. Donc, j'ai mis mes accords de basse. Bang. Good, hein. Et puis il est remonté l'escalier, c'était fini. Mais je continue à l'écouter, c'est de ma faute.
Mais non, mais quoi dire de plus? L'émotion devant quelqu'un que l'on admire en disant.
Et que j'admire toujours.
Mais ouais.
Chaque album qui sort, je suis fasciné. C'est un excellent produit.
Absolument, absolument. Yvan Calvera, vous écoutiez Simaris, pardon.
On sort les flashs pour n'importe quelle tâche.
Va y avoir du sport.
Et les mecs se lâche, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille.
Et pour vous, Yvan, c'est votre premier long métrage, Irène, on vient de l'évoquer avec Cécile de France, c'est ça ?
C'est ça, et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait à la fois Silmarils dans la BO, mais aussi Paul Weller, Wildwood, dans la BO. Donc j'écoutais un peu les mêmes.
C'est vrai, c'est vrai. Et vous prenez le risque de faire un film avec une inconnue ?
Oui, à l'époque, c'était son premier film où elle avait le rôle-titre. Elle a tourné L'Auberge Espagnole quasiment en même temps. Ouais. Mais au moment où on tourne, effectivement, elle n'est pas du tout encore connue.
Et ça devait être un moyen métrage. Finalement, le producteur vous dit non. On est parti pour un long et vous êtes nommé au César du meilleur premier film.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que je suis nommé en même temps que Zabou Breitman pour Se souvenir des belles choses avec Bernard Campan et Isabelle Carré. Donc j'ai su dès le début de l'année, parce que ça sortait le 5 janvier, que ce serait pour eux. Et ça s'est vérifié. Ouais.
Oui, et finalement, vous les retrouvez tous les deux avec la dégustation au théâtre.
C'est
éternel.
Drôle,
ouais,
c'est drôle la vie. Hein.
Et une boucle tout le temps.
Ouais.
Pas rancunier.
Pas rancunier, jamais.
Non, mais rien ne. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière où vous vous êtes dit je laisse tomber ? Vous avez douté ? Ou au contraire, rien ne peut vous arrêter ?
Ben non, je me suis jamais dit je laisse tomber parce que en fait tout ce que j'ai fait a toujours trouvé un écho, que ce soit public, critique ou auprès de mes voisins. Donc
mais
pour manger aussi.
Pour reprendre l'expression tout à l'heure, vous y mettez de la sueur à la transpiration, c'est-à-dire que c'est pas tout de évidemment vous créez, vous travaillez, vous avez des idées et une patte formidable, c'est vraiment votre savoir-faire. Mais vous ne lâchez rien aussi, vous êtes un bosseur, faut pas l'oublier ça.
Ouais, je suis bosseur, c'est vrai que ma formation de mathématicien, ça m'a appris à travailler beaucoup. Et donc, mais moi je fais ça assez naturellement en fait, je me lève, j'ai envie, je me force jamais.
Vous aimez travailler ?
Ouais, j'adore écrire des histoires, raconter des histoires.
Mais non, mais j'ai travaillé au sens laborieux du terme.
Oui, je suis perfectionniste, j'aime.
Aller de rendez-vous en rendez-vous, voir des producteurs, des propriétaires de théâtre, essayer de convaincre, puis sans doute, j'imagine, avoir de temps en temps des portes qui se ferment avec non, ça va pas être possible.
Alors au début, c'était comme ça. Maintenant, ça l'est moins.
C'est plus facile.
Maintenant, j'ai toujours les mêmes producteurs,
je travaille
depuis 15 ans, et maintenant j'ai plutôt des proposition. Maintenant, on m'appelle au théâtre notamment,
plus confortable.
Et au cinéma même aussi.
Mais là, vous avez peut-être une autre pression maintenant, qui est de ne pas décevoir ceux qui vous font confiance.
Toujours. On a toujours la pression. Ça fait partie de ces métiers. Hein. Vous le savez aussi. C'est des métiers où on vit avec la pression, mais c'est ce qu'on aime.
Venise n'est pas en Italie. Alors, il y a la musique également du film.
L'amour.
Mouloudji.
L'amour.
Très belle danse que je fais avec Valérie. Ouais. Ma camarade de jeu. Parlons d'ailleurs un peu de Valérie qui n'est pas là. Malheureusement, elle n'a pas pu être là.
Elle est brillante, hein.
Elle est formidable. Ouais. J'ai un plaisir. Vous entendez cette musique, c'est un peu nostalgique. Et c'est le premier jour du tournage, on a dansé ensemble, Valérie et moi. On savait tout de suite que la famille Chamoudot fonctionnerait. Alors, je ne sais pas si les gens aimeront le film et tout ça. Mais en revanche,
elle
rien
fonctionne.
Que pour cette danse, on pouvait voir qu'en deux acteurs, ça aime beaucoup. Parce que c'est le premier jour du tournage et on a dansé. Et on danse sur cette musique. Et on comprend pourquoi les Chamoudot, il leur arrivera. Il leur arrivera jamais rien.
Et pourtant,
parce qu'ils sont l'amour.
Et pourtant, ouais, c'est ça. Et pourtant, elle lui en veut un tout petit peu cette maison, cette maison qui n'est pas construite, cette caravane.
Quand on aime, c'est impossible. On n'en veut pas trop longtemps. Si on a quelqu'un qui t'aime, l'amour, c'est quand même l'arme absolue contre tout. Hein. Contre tout.
C'est
si jamais, même si vous avez un pépin.
Quelle vie m'as-tu donné ? C'est pas la vie.
Oui, mais ça s'oublie dans une danse. Ça s'oublie. C'est pour ça que j'aime bien les Chamoudot. J'aime bien Bernard. Cette musique est bien.
Et ça s'oublie à la bonne place. Ça s'oublie avec un regard, avec un sourire.
Voilà, il danse, il est heureux. Bien sûr qu'elle lui dit j'en ai marre de vivre dans cette caravane. J'en ai marre du. Mais en même temps, c'est des gens qui prennent de la place en dansant. Mais quand ils dansent, ils s'aiment vraiment. Et c'est l'arme absolue. Hein. Si jamais t'es dans la merde, si t'es dans le souci, dans le tracas, c'est quand même plus facile si on aime. Je le pense.
Et exactement, parce que justement, il y a les deux catégories sociales qui sont en parallèle tout au long du film. Et ceux qui ont l'argent ne s'aiment peut-être pas forcément ou ne transmettent pas autant d'amour.
Non, ce serait un cliché. On peut pas dire que les gens riches ne s'aiment pas.
Dans le film.
Dans notre film.
Ne transmettent pas l'amour à leur enfant en particulier. Bon, on sait bien.
Si, je t'assure. Regarde comment il s'appelait. Comment il s'appelle la petite. Mais en cours, ils s'adoraient, ces gens-là. Ce sont des gens, écoute, ils écrivent des livres d'amour. Écoute. Monsieur et Madame Bettencourt. Enfin, bien sûr, ce sont des gens qui savent énormément. Ça n'engage que vous, mon vieux.
Louis, je parlais du film Venise et Basile
de Harpe.
Louis Morin, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des inégalités, justement, puisqu'il y a ces deux familles qui sont dans rang social différent. Expliquez-nous déjà en quoi consiste l'Observatoire des inégalités.
C'est pas facile de parler d'inégalité après un tel numéro. L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant. Le siège est à Tours. Son objectif, c'est d'essayer d'éclairer la situation sociale de la France et de regarder ses écarts. Ce qu'on se trouve juste ou pas juste, mais en tout cas d'avoir un débat un peu informé et notamment sur les catégories sociales.
Un écart juste, ça existe.
Il y a des choses, il y a des injustices et il y a des inégalités qui sont deux choses différentes. On est assez d'accord pour qu'il y ait des inégalités de salaire et après, à quel niveau elles sont justes ou pas, ça c'est plus difficile à déterminer.
Est-ce que on voit dans le film une espèce de peut-être que honte, le mot est un peu fort, mais
choc social.
Je parle de l'enfant. Voilà. Il est gêné de ne pas être au niveau social.
Il y a clairement une forme de honte, d'embarras. On l'appelle comme on veut. Quand deux milieux comme ça se frottent, comme l'a dit Lily Cadour, il y a une histoire d'amour, quoi. Le film, c'est d'abord ça, quand même. Et donc, mais c'est ça qui crée la tension. S'il n'y avait pas d'amour, si lui il tombe amoureux d'une autre petite fille, l'histoire se passe pas. Mais c'est vrai que quand ces milieux comme ça se rencontrent, se frottent, il peut y avoir une sorte de honte sociale, bien sûr. Après qu'on n'a peut-être pas quand on est tout petit et puis qu'on a à l'adolescence, à un moment, c'est émouvant, quoi. Il y a des tensions. Puis qu'après, on finit par assumer et puis à se dire, il y a d'autres choses dans la vie que les inégalités.
C'est pas complètement infondé parce qu'on se rend compte, même quand on grandit, que finalement il y a des couples mixtes au sens social, mais que le plus souvent les couples sont quand même établis en appartenant à des milieux assez proches. Donc finalement, je trouve que ce petit garçon, il est d'autant plus touchant parce qu'il a une sorte de préconscience que l'avenir sera plus complexe dans l'idée d'être amoureux ou de vivre en couple avec une jeune fille comme ça, parce que les parents vont regarder de travers, parce qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Donc c'est aussi ce qui est touchant, c'est qu'il sent qu'il y a un truc qui va claudiquer, que ça va pas passer.
Ouais, ouais. Mais il s'en rend compte, puis en même temps il y a son père, Jean Baudot, qui dit hop, on y va, on y va quand même. Tu peux y aller, tu peux le faire. Il y a des dans la vie comme ça, ça peut être des parents, des amis, des profs,
ouais, parce
qui vous disent un jour, t'es pas forcément prédestiné à être là où on te place, puis tu peux y aller.
Lui-même
il y va, le gars.
L'audace, mon fils.
Lui-même il a quand même, c'est un jeune ado, il y va quand même, il fait le pas d'y aller. Donc on a aussi parfois les ressources en nous-mêmes pour dire bon.
Parce que ça peut être un moteur aussi. On dit quand on est d'un milieu social moyen entre guillemets, on pas forcément défavorisé. Ouais. C'est pas pour nous. C'est pas pour notre famille. C'est pas pour notre style de vie. Et puis il y a ceux d'une autre génération qui disent et pourquoi pas. Pourquoi ne pas conquérir des choses qui est un peu la
difficulté, c'est
du père.
Qu'il y a toujours les deux en même temps. Ouais. Il y a toujours c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Et puis de l'autre côté, pourquoi j'irai pas viser la lune, ça me fait pas peur. Tiens, une sorte de ce qu'il dit ça. Pourquoi on n'y arrivera pas? Non, mais dans la chanson,
il a glissé Amel Bent.
C'est une vieille génération, quand même.
Je vous adore, Louis, je vous adore.
Mais attendez, moi j'ai une liste de chants comme ça. Non, mais Galfa, il fait la même chose.
On parle
chez Mars, c'est pareil.
On parle de l'embarras.
Impossible n'est pas Chamodo, c'est pareil.
C'est ça.
Fitzgerald, si vous prenez Fitzgerald, qu'est-ce que c'est si ce n'est sa condition qu'il n'arrive jamais à égaler? C'est parce qu'il devient écrivain, qu'après il écrira et qu'il va s'approcher. Mais c'est quand même tout le temps un livre sur lequel il dit je ne rentrerai jamais dans la haute bourgeoisie américaine. Donc ce combat, il est à tous les niveaux.
Absolument.
Avant c'était la royauté, puis l'aristocratie, puis l'aristocratie est passée aux bourgeois, puis les bourgeois.
Et on peut retrouver pareil avec des artistes.
Les gens sont en train de zapper, je le sens.
Non. Mais c'est vrai que dans la chanson, dans la littérature, le côté artiste incompris ou en tout cas décalé par rapport à la société leur permet d'exister et d'exprimer leur art. On parle de l'embarras d'être pauvre. Est-ce que l'embarras d'être riche existe?
Les riches ont de bonnes manières.
Je parle chez les enfants.
Les riches ont.
Parce qu'il y a des enfants gênés d'être fils.
Les enfants savent aussi acquérir les bonnes manières qui consistent à ne pas mettre dans l'embarras quelqu'un qui est plutôt défavorisé et va essayer de se débarrasser de ça. Mais c'est pas forcément possible. Il y a toujours cet écart. On le voit dans le film avec Pauline. Elle essaye de le sortir de l'embarras. Et après, les réalités sociales sont là. Il y a un truc dont on y faut parler, c'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, cette violence sociale-là, le choc des écarts est démultiplié, c'est-à-dire sur Insta, comme disent nos ados, quand les gosses de riches balancent leurs photos en permanence aux gosses de pauvres, ce choc-là, ce sentiment peut-être de honte, de décalage, il est très violent, c'est vrai.
Tu dis, la vie qu'on raconte sur Instagram n'est pas la vraie vie non plus. C'est celle qu'on aime s'inventer et qu'on aime montrer aux autres.
Mais quand on est au ski, c'est vrai que ça fait déprimer. Je lisais un article disant que quand vous avez un petit coup de mou, arrêtez de regarder Instagram pendant quelques jours. Vous allez voir, ça ira mieux parce qu'on passe inconsciemment son temps à se comparer, à voir qu'un tel fait ceci, cela et que toi,
et lui
tu
est
fais
heureux
rien,
et moi pas.
Et tu te dis, voilà, que mon existence est moins belle.
C'est peut-être une des sources. On a parlé de la capacité de mobilisation des réseaux sociaux, mais l'exposition, c'est peut-être aussi une des sources de tension sociale. C'est-à-dire qu'on voit, on voit ce décalage qui vous arrive à la figure, on se le prend et qu'est-ce qu'on gère ? Après, on gère les enfants, la vie s'est faite de ça et puis en grandissant, ils assument, on assume ce décalage.
Et ce décalage est évoqué avec beaucoup de poésie, en tout cas dans le film Venise n'est pas en Italie. Merci Louis Morin d'être venu
à
ce micro.
À vous.
Merci beaucoup. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Les assistants vocaux sont accusés de sexisme.
Oui, parce qu'ils sont équipés de voix de femmes dociles. Hein, forcément, ils n'allaient pas foutre la voix de Jean-Pierre Bacri sur l'iPhone, hein, qui, quand vous lui demandez le temps qu'il fait, vous répond « Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? T'as une vie, toi ?» D'après une étude de l'UNESCO, Siri, Alexa, etc. sont trop genrés. Et ça, ça va pas.
On en reparle après les infos de midi. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Léna Cadeau-Bodoni, Daniel Morin,
bonjour,
Albert Algout, Tanguy Pastureau, Jérémy Crédville, et nos invités Yvan Calvérac et Benoît Poupin.
Bravo.
On parle de Venise n'est pas en Italie, ce nouveau film d'Yvan Calvérac est un road movie qui a beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme, le rire évidemment, l'émotion des premiers émois d'amour entre deux jeunes élèves qui sont dans le même bahut, mais pas du tout avec le même rang social. L'une joue de la harpe,
comme si
c'était une catégorie sociale d'ailleurs de jouer de la harpe.
Oh, ça c'est rare en caravane en tout cas.
Hein. Place à la maison, en tout cas, pour jouer de la harpe. L'autre joue au ping-pong, donc il y a une balle de ping-pong. Balle de ping-pong très importante dans leur histoire d'amour, qui va, elle aussi, une très belle imitation de la balle de ping-pong de Jérémy. Et puis, il y a le papa VRP, le papa galère, le papa qui essaye d'obtenir le permis de construire, c'est pour ça que toute la famille vit dans une caravane, le papa qui va être un peu le boulet de son fils avec tu as un rendez-vous amoureux, eh ben on va tous venir avec toi pour te soutenir,
exact.
On va pas te laisser comme ça, et là ça devient un road movie parce que le papa en plus est un papa chanteur dans la voiture. Tellement drôle le massacre de chants africains dans la voiture.
Mais c'était drôle. Très compliqué parce qu'on avait on avait triché, on avait mis des antisèches.
Oui.
Donc j'en avais deux.
Il vaut mieux dire antisèche que nègre dans ces cas-là. Oui, c'est vrai.
Je vous demande pardon.
Il vaut mieux dire antisèche que nègre. La vieille expression disait nègre quand un texte est écrit sur un papier.
Alors bon.
Mais oui.
J'ai peur. J'ai plus pensé que vous pétiez de durée.
Ça peut arriver comme ça en une seconde. Le type commence à déballer un truc.
Vous voulez dire ça que ça, mon vieux. Calmez-vous, Nagui, qu'est-ce qui se passe? Mais vous l'avez bien mérité. Calmez-vous, Nagui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez mis dans son café? J'ai mis quel rapport avec un homme de couleur et mon antisèche? Et là, je me dis, ça y est, il a pété son... Fini, fin de carrière pour Nagui. Alors oui, j'avais une anti-sèche. Et c'est très compliqué à retourner. Oh là 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 là. Comment je vais rattraper ça, moi? Et c'était très compliqué
à retenir.
À retenir, et même en le lisant... on n'y arrivait pas. Mais c'est du très vieux zaïrois. C'est du très vieux zaïrois. Non, c'est vrai, hein.
C'est vrai, c'est un groupe belge d'origine zaïroise.
Voilà. Il y a un belge et un français.
Ouais.
Black Blood. Le grand perdant des Français. Comme quoi j'ai dit. Alors ça veut dire que t'as réussi à faire un film branché. Et le grand-père d'un des chanteurs de Daft Punk.
Oh.
Alors ça, je l'ai appris. Eh bien oui. Je l'ai appris récemment.
Le grand-père
d'un. Alors, ils sont deux compositeurs. Il y a un français et un belge, j'ai oublié les noms.
D'accord.
Et dans les deux. Celui qui a composé ça est le père ou le grand-père d'un des membres de Daft Punk.
Très branché.
Et voilà, et c'est là que je lui ai dit, mais comment as-tu réussi à placer une chanson branchée?
Ouais.
Voilà, fantastique. Et donc on reprend, et yeah, ah, Bewanaz. Du très vieux zaïrois.
Venise n'est pas...
Oui, ça va calmer tout le monde. Parce que là, les gens sont en train de tout mélanger. Ils ont dit nègre, vieux zaïrois. Je te jure, ils ont pété un câble, ils ont dit. Pendant le journal, ils ont dû aller boire ou prendre des stupéfiants. Vite, la chronique de Monsieur Bastien. Vite.
Ok, d'accord, c'est parti. Vas-y, ta guillemette.
Vite, c'est moi qui m'excuse, vite.
Tanguy, on vit, et Benoît Boulevard a raison, on vit une époque très sensible.
Oui, fini les mamans qui vous éclataient la tête au premier Kit Kat volé en boulangerie en vous disant « Voilà les deux doigts coupe-fin, tu les as dans ta gueule ». Terminé les gonzes mal dégrossies à la Jean Gabin qui vous regardaient en murmurant « Ouh, toi mon petit bonhomme, j'ai dans un coin de mon ciboulot comme l'idée que je vais te mettre une mandale ». Notre époque est celle de la sensibilité exacerbée. Il n'y a presque plus de violence réelle, donc on se crée de la violence symbolique. Et moi, quand au resto, il n'y a pas de plat vegan, je me mets à pleurer en criant « J'en place une pour mes frères palestiniens » et pour tous les blacks du ghetto qui eux aussi sont discriminés par Babylone. Sous l'œil incrédule du serveur qui me dit « Non mais si c'est que ça, je peux vous mettre des carottes râpées ». Prenez Alain Delon, sa femme d'honneur à Cannes. Mais quel foutoir! Le type tourne dans des tas de films de flics dans lesquels il ouvre deux fois la bouche. Une pour dire à une dame « Sois gentil, tais-toi ». L'autre pour dire devant un cadavre « Je suis formel, c'est chef de la mafia de Dijon, Adriano Florentino, dit Riton la truelle. On l'appelle comme ça parce que dans le mur de son salon, il a coulé tous ses ennemis. Ah bah il a pas besoin de passer à Brico Dépôt acheter du plâtre. » Donc belle carrière. Mais des gens avaient lancé une pétition réclamant qu'il n'ait pas de palme, au motif que ce serait un acteur raciste, homophobe et misogyne. Peut-être d'ailleurs, mais il n'y a pas une condamnation, donc on le juge sur trois phrases qu'il a dites un jour, comme « Oui, un enfant, c'est un papa, plus une maman, plus une nounou quand même et un poil de personnel de maison, parce que c'est de long. Hein. » Mais on a encore le droit de dire ce qu'on veut. Hein, Mathieu Delormeau, un chroniqueur de C8, cette chaîne à la dérive sur laquelle il ne va plus rester qu'Hanouna et Elisabeth Lévy qui se foutent des œufs dans le slip. J'en profite d'ailleurs pour dire que je cherche un emploi en télé, pas trop prenant, très bien payé, donc de la télé, quoi. Hein. Mathieu Delormeau, donc, a même comparé Delon à Hitler, qui pourtant avait un CV chargé. Quand il a été accueilli en enfer, Satan lui a dit « Non, monsieur, je peux pas vous prendre, vous êtes surqualifié. » Delormeau a dit « On ne peut pas séparer l'acteur de l'homme, c'est comme si on avait dit Hitler est mauvais, mais dans la vie, c'est un amour. » Et d'ailleurs, bah, on ne sait pas, hein, pourquoi pas. Blondie, la chienne d'Hitler, n'a jamais eu à s'en plaindre au quotidien. D'abord, elle n'était pas juive. Hein, il l'a vérifié, il l'a observé le vendredi soir, voir si devant sa gamelle, elle faisait discrètement la prière de Chabat. Mais non, donc elle a eu des tas de caresses. Bref, comme on s'ennuie, on se crée des combats factices. Exemple, les assistants vocaux, Alexa d'Amazon, Siri d'Apple. Ces gadgets à qui, quand on demande « Dis Siri, donne-moi l'âge de Jean-Pierre Elkabbach », répondent « Désolé, je ne peux pas traiter les données numériques au-delà d'une certaine limite. » Bon ben, c'est idiot un assistant vocal, hein, ça vous écoute toute la journée, et dans la maison mère à l'autre bout du monde, il y a un mec qui dit « J'ai espionné les Sanchez », ils discutent de rien, ce sont des cons. Mais l'UNESCO, ce truc de l'ONU qui protège certains édifices, qui fait que Vinci n'a jamais pu construire ce beau projet de parking à la place du Taj Mahal, et ben a réussi à pondre une étude, Nagui, comme quoi les assistants vocaux seraient sexistes.
Mais d'où vient ce constat de leur part?
Eh ben, les auteurs de l'étude, des gens qui n'ont rien à foutre, hein, ils étaient déjà champions départementaux de macramé et avaient fait toutes les combinaisons de sudoku existantes, s'insurgent contre le fait que les assistants vocaux portent des noms de filles, ce qui est vrai, et ont une voix docile. Et c'est vrai que quand vous dites Siri, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Elle vous répond, il va faire 18 degrés avec du soleil. Donc là, moi qui suis basique, je dis, tu as dit du soleil, esclave. Hein, bon, enfin, c'est une situation terriblement excitante. Enfin, très genrée, totalement soumise. Hein. Mais ça, c'est fini, parce que les fabricants d'assistants vocaux qui se font taxer de sexisme, en 2019, ça équivaut à fasciste intégral. Hein, vous faites brûler une croix avec une cagoule sur la tête, on vous trouve plus de circonstances atténuantes. Eh ben, ils vont tout changer. Mais dans maximum un an, vous direz à l'assistant, dit Gunther, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Et là, une voix sourde, la même que celle de Gérard Darmon s'il s'était frotté la glotte contre une râpe à gruyère, vous répondra, connard, tu vis à Lisieux, tu crois quoi? Il va flotter. Vous lui direz, dit Gunther, joue les sucettes de France Gall. Il répondra, non, trop sexiste, espèce de malade. T'as cru que tu vivais en 74 avec Anémone Giscard d'Estaing qui fait la vaisselle? Allez, je te fous du Rammstein pour te punir. Et là, du métal allemand se fera entendre dans la pièce, tandis que votre arrière-grand-mère, depuis sa chambre, hurlera, purée, ils reviennent, Léon, fais ta valise. Donc l'UNESCO demande aux fabricants d'assistants vocaux, c'est véridique, de développer une voix non genrée pour les assistants vocaux. Le souci étant que ça n'existe pas. Hein, même Christophe Willem, quand il murmure, si on ferme les yeux, on dit c'est un mec. Hein. Donc le mieux, c'est que l'assistant vocal ne parle pas. Hein, on lui dira, dis Siri, il y a quoi sur Énergie 12 ce soir? Il ne répondra rien. Ce qui est aussi la liste des programmes, donc d'Énergie 12. Hein, voilà, zut, encore un employeur potentiel de moi pour septembre. C'est terrible, je vais être obligé de re-signer sur France Inter. C'est foutu. Donc on a tellement honte d'appartenir à un genre maintenant que moi, à la piscine, quand il y a les vestiaires hommes et femmes, je n'arrive plus à choisir. Je me mets au milieu, hein, mais il n'y a pas de cabine. Hein, et après, allez expliquer ça à la police. Hein, les types vous disent, pervers, on va te faire goûter à la matraque en cellule. Et là, vous demandez,
Ah, c'est vous, Gunther.
Bravo, tant de passion.
La boule du jour. Sur France Inter.
Ah, c'était très bien, c'est très juste. Hein.
Oui, d'ailleurs, vous avez dit hors antenne que vous rêviez, Benoît Poulevard, d'avoir un GPS un peu plus vulgaire que...
Oui, qui me parle mal, mais il vient de le dire. Il vient de l'expliquer très mieux, bien mieux que moi. Oui, quelque chose qui te booste un peu. Excusez-moi, oui. Je viens de prendre une petite inhalation parce que j'ai une petite bronchite. Non, il m'a tellement fait rire. Quand tu ris, ça tape sur les bronches. Vite, saute à quelle autre chose. Vite, Nagui, ne me laisse pas tout seul avec ma maladie.
Ce film, vous l'avez porté. D'abord, vous saviez que vous alliez faire un film à partir du moment où le roman était signé, ou c'est après la pièce de théâtre que vous avez eu envie de faire Venise n'est pas aux États-Unis?
C'est surtout le succès du roman, pour être honnête. J'avais l'idée d'en faire peut-être un film, mais le succès du roman a vraiment conforté mon envie et celle de mes producteurs à se lancer dans le film.
Alors, je l'avais lu à l'époque. Je l'ai plus en tête maintenant avec le film. Est-ce que tout y est? Ou vous avez dû faire des choix?
Ah non, il y a des choses qui ont changé, ouais. Des choses que j'ai coupées, des choses que j'ai rajoutées, parce que forcément l'espace...
Donc c'est une autre œuvre en fait.
Ce sont des œuvres quand même qui se répondent, qui sont quand même assez similaires, l'histoire est un peu la même, mais effectivement, il y a l'adaptation, ça demande plein de choix, et il y a des choses qui marchent...
Des vannes plus temporelles.
Des vannes plus temporelles, oui, le film se passe aujourd'hui, le roman se passait à la fin des années 90. Fin des années 80. Donc j'ai actualisé le film et puis donné du rythme, de la comédie, enfin, quelque chose qui soit vraiment haletant, qui nous emporte jusqu'à la fin.
Et vous ne voulez pas spécialement que ce soit une comédie au sens où on rit à chaque scène, ce n'est pas fait pour qu'il y ait des vannes, il y a des moments justement de vraie tendresse, d'émotion et de découverte de la vie parce que n'en déplaise à Valérie Bonneton et à Benoît Poulevard, les deux stars du film sont les deux gamins.
Non, je crois que c'est la famille, hein. C'est vraiment l'histoire d'une famille. Oui. Mais
c'est eux le moteur de l'histoire aussi.
Hein. Absolument, c'est eux le moteur de l'histoire. Je pense qu'on se marre beaucoup dans la première partie du film et plus ça avance, plus on s'attache à ces personnages, à cette famille.
Ouais, moi, le biker, il me fait rire aussi quand même.
Ouais, le biker.
Le biker dépressif.
Ouais, il est énorme. C'est David Salles. Il est fantastique.
Tellement drôle. Ouais. Vous avez pris du plaisir dans ce film, ça se sent, Benoît, mais ça se sent au point où on se demande si c'est chaque fois le cas dans un film.
Non, c'est pas toujours le cas. Bon, comme on vient de dire, c'est pas seulement une comédie, mais nous on avait quand même beaucoup de choses de comédie, Valérie et moi-même. Mais c'est pas toujours le cas parce que la comédie, ça fout toujours, ça peut vite foutre un malaise. C'est plus compliqué de faire rire, de s'amuser sur un plateau où on se marre. Enfin, où c'est censé faire rire. Alors, je précise encore que Valérie et moi, on avait les scènes les plus...
drôles.
Oui, non, mais c'est vraiment une comédie.
Le biscuit pour faire rire. Que très souvent, c'est dans les films plus tragiques que tu déconnes le plus. Alors, peut-être que c'est un exutoire. Mais ici, on a réussi à mêler les deux. Et c'est pas toujours le cas de se marrer. Non,
et une belle entente avec Valérie Bonneton.
Oui, ça
se sent.
Parce que Valérie est fantastique.
Ça se sent au point où est-ce que vous cherchez à vous surprendre aussi.
Surtout à se faire rire. Ouais. C'est surtout. Et même pour l'enfant, parce que l'enfant est très bien. Et Ellie, il est très bien élevé. Et si vous voyez à l'image, il est très bien élevé. Donc c'est un petit peu comme notre ami réalisateur. Il était très correct, très poli. Et on a beaucoup de scènes à l'intérieur, dans des choses très confinées. Par exemple, dans la Volvo, c'est une vieille Volvo break. Donc on est beaucoup ensemble.
Qui chauffe.
Et il faisait vraiment très chaud. On tournait pendant la canicule. Et donc cet enfant était très bien élevé. Et il devait beaucoup se concentrer. Parce que Yvan était très, très attentif à ce que l'enfant lui ressemble quand même un petit peu. Et bon, alors là, c'était notre plaisir à Valérie et à moi-même, c'était de le déconcentrer. C'est assez dur, mais comme il était très impliqué, alors le pauvre... Oui, j'ai fait beaucoup pour le déconcentrer, mais malgré tout, il y est arrivé. Donc, et alors, il se faisait gronder, parce que dès qu'il commençait à rire, on arrêtait. Vous comprenez? On arrêtait de faire les cons, et on dit, mais concentre-toi, enfin! Mais t'as quel âge? Je crois que tu vas réussir comme ça! Et parfois, il essayait de nous dire, oui, mais je peux avoir une minute pour me concentrer. Je dis, dis donc, tu la fermes, oui, mais
non! Mais j'entendais pas ce qu'il disait.
Les mots grossiers, ça, j'en ai mis quelques-uns. Oui, je vais faire un cours accéléré de la sexualité dans les pays étrangers. Je peux vous dire...
Ah, il est majeur.
Il a dû être traité après. On a dû le traiter.
Un des trucs qui m'a le plus touché, en fait, dans cette histoire, c'est quand Benoît a découvert le scénario et il m'a dit, là, je vais enfin faire un film, qui va plaire à ma mère.
Voilà. Ah, c'est joli.
Mais en fait, je l'ai découvert parce que je l'ai retrouvé au moment de la promo, le scénario. Ouais, c'est là que j'ai découvert le scénar. Je me suis rendu compte de ce que j'avais tourné. Parce que j'ai un cerveau, comme je disais, j'ai deux neurones, un pour faire mon lit, un pour rouler mes clopes. Donc je ne peux pas tout retenir. Non mais c'est vrai, quand je l'ai lu, j'ai dit ce film-là, ça va faire rire ma mère.
Deux neurones, ça vous fait deux points communs avec Daniel Morin. Que voici.
Allez. Qui était l'homme le plus sexy ce week-end ? Alain Delon sur le tapis rouge de Cannes, Bilal Hassani sur la scène de l'Eurovision, Nagui pour la montée des marches du Festival de Cannes, moi dans mon canapé en train de regarder la 37e journée de Ligue 1, ou bien Patrick Balkany avec chapeau et lunettes noires à Roissy avec habillé aller simple pour le Panama. Le choix est difficile. Affinons l'analyse. Bon, je commence par moi, comme ça c'est fait. Pour être honnête, ça m'arrive pas souvent, j'étais pas au top. D'habitude, moi qui suis d'une classe folle en toutes circonstances, ce week-end, il y a eu du laisser aller. Samedi soir, j'étais à Vachy, pas douché depuis vendredi matin, en slip recto verso, chaussettes trouées, avec des miettes de pain dans les poils du torse et des croûtes de fromage dans la barbe. Pas le top, hein, non. Leïla, d'habitude si compréhensive, elle a râlé. Tu sais bien que je suis pas exigeante au niveau hygiène, mais là, tu pousses le bouchon un peu loin. Alors, ok, j'aime quand tu sens fort, mais là, j'ai mes limites. Va prendre une douche ou mets-toi un coup d'aspirateur, mais fais quelque chose, sinon je pars.
C'est vrai.
J'imite bien, hein.
Oui, c'est vrai.
Du coup, je m'élimine de la compétition. D'homme le plus sexy du week-end. Prenons maintenant le cas de Nagui. Nagui sur la montée des marches accompagné de sa femme Mélanie Page. Eh ben, je crois pas que j'aurais dit ça un jour. Mais j'ai trouvé celui que je déteste et que je trouve repoussant 5 jours par semaine. Je l'ai trouvé plutôt beau gosse. Non, sérieusement. Hein.
Parce que tu m'entendais pas, il n'y avait pas le son.
Ah, c'est peut-être pour ça, ça joue aussi. Smoking impeccable. Et c'est difficile à porter le smoking quand tu mesures moins d'un mètre. Ça fait vite nain qui travaille dans un cirque. Mais là, je sais pas pourquoi, il avait la classe, Nagui. Il avait la classe, le gars. Bon, la présence de sa femme Mélanie faisait beaucoup. Hein. Elle est courageuse, cette femme, quand même. Pensez donc, marcher tout en souriant, les genoux pliés. Si elle plie pas la rotule, elle fait 3 têtes de plus. Du coup, Nagui, vexé, il tire sur le bras, c'est la déséquilibre, elle peut tomber. Et si par malheur, elle lui tombe dessus, il va mal le prendre, il est capable de la molester. Bref, Nagui est donc bien placé hein, pour être élu le mec le plus sexy du week-end. Quid de Bilal Hassani ? Perso, j'ai trouvé hyper canon pendant le concours de l'Eurovision. Sa perruque blonde hyper longue lui donnait des airs de super-héros, je l'ai trouvé au top. Pas facile à porter la perruque cheveux longs et blonds. Hein. Tenez, imaginez Nagui avec. Nagui en blonde, ça fait tout de suite boîte boubou. C'est vrai, c'est 20 euros l'amour derrière le buisson, 50 euros sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, maintenant, allez.
Je croyais que c'était fini qu'il attaquait avec quelqu'un d'autre. Non, il revient sur moi.
Non, mais j'adore, c'est pour moi, t'es le mec du week-end. Ouais. Bon, attends, parce qu'il y a Alain Delon. Alain Delon sur le tapis rouge. Alain Delon, quand même. Le guépard. Rocco, le samouraï. Il a quand même une présence de dingue. Et puis, vous avez vu ça quand il s'est pointé sur le tapis. Tout le monde s'est écarté pour le laisser passer.
Ah ouais.
On aurait dit Moïse qui s'est parlé à mer. Moïse, la mer rouge. Delon, le tapis rouge. C'était quasiment biblique Delon à Cannes. Je suis pas le nommé gagnant du week-end. Alors, il a eu des comportements limites dans sa carrière. Mais merde, c'est Alain Delon, quand même. Il serait un peu misogyne, un poil homophobe, un chouïa raciste. Si on peut plus avoir quelques défauts, alors je me demande où on va. Non mais, ce que les gens peuvent être tatillons avec leur morale. Si tout le monde était comme Nagui, c'est-à-dire sans principe ni valeur, eh ben on perdrait moins de temps. À demain, les amis.
Merci.
Bande originale avec Nagui.
Merci Daniel Morin. Mélanie qui vend Calberac a dirigé d'ailleurs.
Non, on va s'aimer, absolument, et très bon souvenir.
On va s'aimer. Justement, les pièces de théâtre et le cinéma, c'est ce qui fait votre vie en ce moment, la dégustation. Pièce pour laquelle vous avez reçu le Molière de la Comédie la semaine dernière. Cette dégustation se joue jusqu'au 30 juin, je le rappelle. J'encourage encore une fois tout le monde à aller au Théâtre de la Renaissance. Il y a même une représentation exceptionnelle qui aura lieu le 9 juin prochain au profit du Secours Populaire.
Absolument, bénéfices sont reversés. Enfin, toute la recette.
C'est formidable, non. Puis alors, c'est une pièce que vous avez vue ou pas, Benoît Poulevard, parce que vous avez...
Non, j'étais en train de mettre en doute. J'ai toujours un peu la truie quand j'entends. Toute la recette sera renversée. Ouais, ça sent un peu mauvais. J'ai essayé d'aborder le sujet avec Stéphane Bern et tout à coup, il prenait la tangente à chaque question. Vérifie un petit peu. J'aimerais bien peut-être un petit peu de clarté sur les trucs gratos. Un peu de démagogie financière. On vérifiera quand même. Donc bref, il y aura un petit truc pour le Secours Populaire.
Non, je veux savoir si vous avez vu cette pièce qui donne envie. Parce que, sincèrement, le premier truc que j'ai eu envie de faire en sortant de la pièce, c'est de boire un bon vin. Cette pièce est quand même une formidable histoire, évidemment.
Entre... Ah, c'est sur le Pinard ?
Ouais, ça se passe dans une cave, ouais. C'est la dégustation, justement. Et toutes les allusions d'amour, de séduction, de charme entre les deux
Isabelle Carré.
Se font autour du vin. Pourquoi tu dis la pauvre ?
Ce qu'on lui fait dire, quand même.
Ah oui, oui,
c'est elle qui a voulu le dire. Ah, très bien. Franchement, on l'a forcé à rien.
Elle est très drôle.
Elle n'est pas
très,
là, surtout, et vous la chargez comme un petit salaud.
Très, très l'été dernier, vous avez tourné L'Adoration, réalisé par Fabrice Duvel, c'est ça ? Duvel, pardon. Vous y faites quel personnage, Benoît Poulvorde ?
Un ermite.
Vous ?
Oui.
Ça sort quand ?
Je ne sais pas.
D'accord.
Je l'ignore. Oui, t'as jamais déjà oublié. J'avais déjà oublié que j'avais fait ça.
Mais il y a si longtemps ?
Bah, j'ai tourné ça l'été dernier, non ?
Et c'est toujours pas sorti.
Je crois qu'ils ont dû essayer Cannes, mais d'accord, qu'ils se sont ramassés.
Ok. C'est un autre Toto, là. C'est celui de 2027.
C'est celui de la pause.
Celui-là, il était sans gravité, un petit peu d'eau.
On va faire vite. Il va finir par vomir.
J'ai peur qu'il va nous. Tu vois qu'il va nous tapisser le studio. Là.
Comment je suis devenu super-héros, ça, vous l'avez...
Ça, je l'ai tourné, terminé, là, ouais.
D'accord.
Mais ouais, je fais un...
Premier film de Douglas Attal avec Pio Marmaille et voilà. Leïla Bekti.
Ouais, et une jeune fille qui s'appelle...
Vima Lapons.
Vima Lapons, qui est extraordinaire. Et le formidable Benjamin Laverne aussi. Il est formidable, Benjamin.
Non, ça, c'est votre index, monsieur.
Benjamin Laverne est formidable.
Ah, parce que ça, ce serait Benjamin Laverne. Pour les amis qui n'ont pas l'écran, il me montre son index, il me dit, et le formidable Benjamin Laverne. Alors, je sais pas si c'est un code pour me dire. Si, c'est lui. Si tu veux me dire, celui-là s'appellera Benjamin Laverne.
Pourquoi vous ne faites jamais de théâtre ?
Ah, parce que je suis trop paresseux. Je suis beaucoup trop paresseux. Tu veux dire jouer des classiques
mais
et tout
oui.
ça ?
J'ai plus non, de mais même.
Je retiens même pas les. Mais
une pièce moderne.
Une catastrophe, pardon ?
Mais une pièce moderne, une pièce actuelle, contemporaine, peu importe.
Je devrais retenir le texte.
Oui.
Oh, mon chéri, non.
Non, moi je suis pas d'accord. Benoît, c'est un grand professionnel.
J'suis
le
sûr.
Matin, il sait son texte.
Je suis sûr.
Et quand on dit action, il est toujours.
Au cinéma, c'est pas compliqué. Tu dois retenir. C'est où, Venise, exactement. Enfin,
il a même pas retenu le titre.
Je vais mettre le contact. Point, coupé, on l'a refait 80 fois. Vraiment, à moins que.
C'est plus confortable.
Ouais, ça ne demande pas de gros efforts.
Et pourtant, vous qui dites dans les interviews que c'est important pour vous de tourner parce que sinon vous vous ennuyez et que vous dépensez tout votre fric, etc. Donc le théâtre, c'est tous les soirs et au moins vous auriez un rendez-vous.
Une occupation.
Ouais.
Oui, mais alors refaire tout le temps la même chose. Mais en même temps, les gens qui font vraiment du théâtre. Alors, il faut différencier le théâtre, c'est-à-dire qu'ils jouent des textes classiques ou des textes contemporains, bien sûr, du théâtre, des gens qui font le one-man show. J'ai du mal à m'imaginer faire du one-man show, mais peut-être y arriverai-je. Mais, parce que répéter tout le temps la même blague, ça va me fatiguer. Alors, bien sûr, les gens de mauvaise langue vont me dire, voyons, ça fait 10 ans que tu répètes les mêmes blagues. Je dis, oui, d'accord, je sais, mais je me fais pas payer. Donc, mais peut-être que je devrais faire les textes clairs. Ouais, peut-être. Je sais pas, de toute façon, je sais que je suis fatigué un petit peu du cinéma.
Plus,
j'adore jouer. Ouais. Mais je suis en train de réfléchir, je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire. Mais peut-être que je voudrais faire une pièce de théâtre. Mais comme je n'ai jamais joué au théâtre, je sens que vous vous emmerdez.
Mais si
non, c'est parce qu'il est... Parce
oui,
que
bah oui, mais je m'en fous, je ferai couler l'heure. Je m'en fous.
Il est 29 et Daniel Morin doit s'excuser.
Bien sûr, désolé, je suis désolé déjà pour Benoît Poulvorde. J'ai vérifié, hein, certaines scènes sont bien à pipi-caca dans le fameux chutier du film. Mais service public oblige, on a mis les vidéos sur YouPorn et sur la page Facebook de l'émission. Désolé pour Ivor Gelberak, hein, j'ai eu des infos exclusives à la pause et il paraît que vous avez fini votre soirée des Molières avec Ariel Dombal. Service public oblige, on a mis la vidéo sur Collagène Porn et sur la face Facebook de l'émission et désolé pour la famille de Charlie Chaplin, hein, la mémoire de Charlie Chaplin. Ouais, la citation quand le clown a fini de faire rire, il sort sa bite. Mais bon, service public oblige. On a mis la vidéo sur Clown Porn et sur la page Facebook de l'émission, bien évidemment.
Merci et bravo à tous les deux. Merci Benoît Poulvorde. Merci Yvan Calderac.
Merci beaucoup.
Venise et pas en Italie.
Merci de votre accueil.
Le 29
bravo
mai.
À tous les
chroniqueurs. Bravo, Valérie Bonneton.
Chapeau, c'est un plaisir. Et merci au public.
Et demain, Guillaume Musso sera notre invité.
Merci aux ingénieurs.
Tout de suite, écarté de campagne.
Et merci à la vie. Merci au soleil. Merci. Voilà, j'ai pété un câble.
Les infos.
Merci à chacun. Merci aux journaux. Merci à France Inter.